Au quotidien, avec Denis Martin Chabot.
Merci. Bonjour, 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 bonjour. Quatre fois bonjour. Pourquoi? Ben, je pense qu'on risque d'avoir quatre fois plus d'orages qu'on en a eu parce qu'il y a un avis, à ce qu'on appelle ça, une veille jaune d'orage violent au Québec, surtout, sud du Québec. Je n'ai pas vu si c'était ailleurs en Ontario. On va vérifier. Mais je viens de recevoir ça. Donc, cet après-midi, ce soir, les conditions propices à la formation d'orages violents pouvant produire des rafales fortes, de la grêle et de la pluie forte. Oh! Alors, on va rentrer les meubles de jardin. Salut Maurice!
Oui, bonjour.
Ça va bien?
Oui, oui. Je croyais que les quatre bonjours, c'est pour les quatre prochaines journées.
Ah, les quatre prochaines journées, mais oui, j'en fais quatre fois par jour, quatre fois tous les matins.
Bon, ouais, oui. Ça va faire 16.
Ah oui, ça va faire 16 cette semaine. Mais je dis toujours que quatre fois bonjour, c'est mieux qu'une seule fois. Et puis, je vais continuer avec la météo, Maurice. Ce week-end, c'était chaud un peu, c'était collant, c'était lourd.
Encore,
c'était lourd. Moi, j'étais au défilé de la fierté hier à Montréal et, mon Dieu, c'était collant un peu. Mais bon, c'est l'été, on s'y fait, puis ça ne va pas s'améliorer. Puis je vais en parler peut-être dans les unes plus tard dans l'émission, parce qu'il y a un réchauffement des températures des océans. Et ça n'est pas qu'un petit fait comme ça, il y a une tendance. Alors, sud du Québec, de l'Ontario, province maritime, généralement nuageux. Quelques averses débutant en après-midi, risque d'orage en après-midi, je viens de le dire, donc un peu partout. Et ça pourrait être violent ici dans la région de Montréal. Maximum 26, humidex, c'est encore lourd, Maurice, 31. Comme mes amis français trouvent ça drôle parce qu'ils visitent présentement, on dit, nous, c'est collant. C'est pas quelque chose qu'ils utilisent là-bas comme terme, mais l'image est bonne. C'est encore pire, avertissement jaune de chaleur au Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. L'humidex pourrait atteindre 37. Nord de l'Ontario, alternance de soleil et de nuages. Et là-bas, c'est un humidex de 27, mais on prévoit pas de pluie présentement. Mais par contre, il y a de la pluie à Terre-Neuve. Les provinces de l'Ouest maintenant, ensoleillées au Manitoba, humidex jusqu'à 28. Saskatchewan, Alberta, intérieur de la Colombie-Britannique, c'est un peu comme ici. Risque de des averses ce matin et après-midi, risque d'orage en après-midi. Et sur la côte ouest, Vancouver, c'est du soleil, 23. À l'émission aujourd'hui, nous n'avons pas de chroniqueur, ça arrive comme ça, les gens prennent des vacances, mais on va parler avec le président de l'Association des comités de résidents du Québec pour parler de ce projet de règlement sur l'exploitation des résidences privées pour aînés. Les aînés auront-ils toujours leur droit de parole? Et donc, on va parler avec le président de cette association. En fait, en début d'émission, on a un petit peu chambardé l'habitude parce qu'il n'est pas disponible après 10 heures. Donc, on va lui parler tout de suite après la pause musicale qui s'en vient. Donc, Raoul Charbonneau. Et, j'ai dit que j'étais au défilé de la Fierté. J'ai beaucoup participé ce week-end. Fierté Montréal, c'est quand même considéré comme la plus grosse fierté francophone dans le monde. Oui, c'est plus gros que Paris parce que ça s'est pendant 10 jours. Puis il y a beaucoup, beaucoup de grands festivals. Il y a beaucoup de monde. On estime à 100 000 personnes hier le nombre de personnes qui ont assisté au défilé, qui regroupait 12 000 participants. C'était une très belle ambiance, considérant un peu l'état de la situation qui se passe présentement dans notre monde. Alors voilà, nous allons donc discuter de ça avec... mais pas avec des gens de Fierté Montréal, parce qu'on ils ont un repos bien mérité présentement, mais avec Christophe Gérard, qui est mon chroniqueur français, en fait européen, à l'émission « L'heure où l'arc-en-ciel se lève ». Il est de passage à Montréal pour son propre balado qui s'appelle « Queer de rien ». Et lui et son collègue Aurélien Potel vont passer donc une demi-heure avec nous en fin d'émission pour jaser de tout ça. Et c'est le temps peut-être de regarder l'éphéméride du jour. 1945, le Japon transmet une première offre de capitulation aux Alliés après les bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki et l'entrée en guerre de l'Union soviétique. Le gouvernement japonais annonce qu'il accepte les conditions de la déclaration de Potsdam à condition que les prérogatives de l'empereur soient préservées. Les négociations se poursuivent pendant plusieurs jours, avant l'annonce définitive de la capitulation le 15 août 1945. 1793, le Louvre ouvre symboliquement ses portes comme musée. Un an, jour pour jour après la chute de la monarchie aux Tuileries, l'ancien palais royal accueille le public en tant que musée national. L'ouverture du 10 août 1945 1793. Bon, tu sais, ma dyslexie ne m'aide pas parfois. Et toutefois, bref, le musée referme rapidement afin de poursuivre ses travaux d'aménagement. Cette transformation du palais constitue l'acte fondateur du musée du Louvre moderne. 1959, c'est la naissance de Rosanna Arquette, une actrice états-unienne. Elle se fait notamment connaître grâce au film « Recherche Suzanne désespérément »,« Desperately Seeking Susan », et puis « Le Grand Bleu » et « Pulp Fiction ». 1960, Antonio Banderas, acteur et réalisateur espagnol né à Malaga, connu pour ses rôles de films dans, tels que « Le masque de Zorro »,« Desperado », Philadelphia ou encore Douleur et Gloire, et aussi pour son travail avec le réalisateur Pedro Almodovar. Donc, Antonio Banderas a 66 ans aujourd'hui. Le 10 août, c'est la journée. Le 10 août, t'sais. Encore une journée pour les gens qui sont radins, Maurice, 10 août.
C'est moins pire que le 5.
Ah oui, 5
août. Que le 6. Le 6 août, oui.
Ouais. 10 août sont un petit peu moins radins. Oui, OK. La blague est plate, mais ça fait du bien de rigoler un petit peu. Le 10 août, c'est la journée mondiale du lion, initiative destinée à attirer l'attention sur la conservation de cette espèce emblématique. Cette journée sensibilise notamment à la disparition des habitats naturels, aux conflits entre humains et animaux sauvages et aux autres menaces pesant sur les populations de lions. Elle est soutenue par plusieurs organisations internationales de protection de la faune, dont Pantera. Elle ne fait toutefois pas partie des journées internationales officielles des Nations Unies. Et puis, c'est les Perséides, hein? Ça commence dans les prochains jours. Là, le ciel est assez couvert. Je crois que demain et après-demain, là, si je ne me trompe pas, le ciel sera beaucoup plus clair. On pourra voir le défilé d'étoiles filantes.
Oui, pour ceux qui ne sont pas en ville ici, non?
Oui,
la pollution
ville, c'est
lumineuse.
Oui, c'est plus difficile à cause de la pollution luminaire le soir. Mais moi, je me rappelle, dans mon jeune temps, j'habitais Québec, puis on allait au parc le parc des Plaines d'Abraham. Puis il y a des endroits où on est vraiment à l'abri de l'éclairage de la ville. Et je me rappelle avoir vu des étoiles filantes. C'est absolument magnifique. Alors, si vous avez la chance, l'occasion de les voir, les prochains jours, on va voir donc les Perséides. C'est une pluie annuelle d'étoiles filantes hein, qui atteint généralement son maximum quelques jours après la fête du Saint-Laurent, hein, autour des 11, 12 et 13 août. Dans la tradition populaire européenne, les météores visibles dans le ciel d'été ont été ainsi associés aux larmes du martyr romain. Hein, pour ça qu'on appelle les Perséides. Je pense qu'on va s'en aller en musique.
Quand j'étais sur la terre, sous locataire d'un kilo de futur, des messieurs incomplets vestons m'ont invité à une grande déception. Maintenant, je ne pleure plus, je ramasse des vies pour le jour J. Et dans mon cœur, bon cœur, je frappe monnaie à ton effigie. Va-t'en pas. Dehors les chemins sont coulants, les serments de rosée. Va-t'en pas. Dehors y a des silences bondés d'autobus tombés sur le dos. Vaniteux qu'ils sont, aux bouquets de clés, aux bijoux de panique. Ils vont asseoir dans un bureau pendant qu'ici il fait beau. Ils perceront l'écran pour t'offrir une carrière ou noyer ton enfant. Les lois, les cadenas et les eaux. Va-t'en pas. Dehors, y a des orgies d'ennui jusqu'au fond des batteries. Va-t'en pas. Or j'ai vu un ciel si dur que tombaient les oiseaux. Du temps et dans les lignes du ciment. Toi, tu as des yeux qui trahissent le sort, tu mérites l'amour. Maintenant que tu vois tout ce qui n'existe pas, et si tu veux venir, Neptune me guide. Où j'ai semé des larmes, mes armes sont en fleurs. Va-t'en pas. Moi j'ai tant d'amis, je peux pas les compter. Va-t'en pas. J'ai autant d'amis que mille Mexico.
Va-t'en pas, par Richard Desjardins.
Un récent projet de règlement de Santé Québec au sujet des résidences privées pour aînés suscite une vive inquiétude quant au respect des droits des résidents et résidentes. Pour en parler, nous recevons Raoul Charbonneau, président de l'Association des comités de résidents officiels du Québec. Monsieur Charbonneau, bonjour et merci d'être avec nous ce matin.
Bien, merci pour l'invitation.
Bien, c'est un plaisir, c'est un sujet important. Alors, pour bien comprendre la situation, on va commencer par expliquer brièvement c'est quoi une RPA.
Oui. Donc, une résidence privée pour aînés est avant tout un immeuble qui offre un endroit pour se loger à des personnes ayant 65 ans et plus.
OK.
Donc, en plus du logement, nous y retrouvons normalement des activités de loisirs. C'est aussi un milieu de vie qui doit présenter un aspect sécurité minimal. Les RPA sont loin d'être uniformes.
Ouais.
Il y a une grande variabilité d'un établissement à l'autre. Une variabilité par rapport au nombre de résidents.
Ouais.
Donc, il y a des RPA qui ont un seul résident.
Ah bon?
À la plus grande du Canada, à 1307 unités RPA. Donc, il représente environ 2000 aînés qui vivent dans cet immeuble.
Quand même, c'est beaucoup de monde, hein, ouais.
Ouais, c'est à Laval.
Oui, je pense savoir où ça se trouve. Oui, c'est des grandes tours. Oui, c'est vrai. Ouais.
Et il y a aussi une grande variabilité par rapport aux services qui sont offerts. Donc, il y a des RPA qui offrent le minimum qui est uniquement l'habitation et un petit peu de loisirs. À des RPA qui offrent l'ensemble de tous les services possibles, repas, assistance personnelle, aide domestique, soins infirmiers, loisirs.
Donc,
variabilité par rapport aux conditions de vie, c'est-à-dire les règlements de la RPA. Variabilité de coûts, variabilité aux limites de l'offre de services. Donc, il y a une possibilité qu'une RPA doive signifier à un résident que ses besoins surpasse l'offre de services disponibles. Bon, ça va arriver, par exemple, dans certains cas d'Alzheimer.
Ouais.
Donc, la RPA est dépassée et le résident doit aller dans un autre endroit.
D'accord. Donc, voilà. Donc on s'entend que c'est vraiment vaste. C'est quand même régi par certains règlements, j'imagine, du gouvernement. Et on va y arriver. Mais vous, dans ça, vous êtes donc une association qui représente les résidents et résidentes des RPA. Quelle est la mission de votre organisation?
Ouais, on représente aussi les proches aidants.
Les proches aidants,
l'association, okay. Oui, a été fondée durant la COVID-19.
D'accord.
Et on avait à ce moment-là pour mission d'obtenir les mêmes restrictions sanitaires que l'ensemble de la population. Donc, on vivait dans nos RPA des restrictions qui étaient vraiment injustifiées. Donc, notre combat s'est transformé à la suite de l'invitation de la ministre Marguerite Blais à déposer un mémoire à la commission parlementaire de la lutte à la maltraitance. On avait alors suggéré que pour combattre la maltraitance en RPA, nous devions créer des comités consultatifs de résidents dans toutes les RPA du Québec. Presque qu'un an plus tard, le décret ministériel 1574-2022 a mis sur table des comités de milieu de vie. Donc,
les fameux SCMV. Je veux juste rapidement revenir. Vous avez mentionné au départ que vous étiez assujetti à des restrictions pendant la pandémie qui étaient injustes considérant la différence des comités, en fait, des résidences privées pour aînés au CHSLD. Là.
Oui. Bien, c'est-à-dire que, par exemple, moi, si j'habitais un appartement ordinaire, disons que c'est qui n'est pas une RPA, j'avais la possibilité de recevoir ma famille, mes enfants. On pouvait avoir un repas familial et puis il n'y avait pas de problème. Dans la RPA, j'étais limité à une seule visite par jour. Et c'est pas n'importe qui pouvait venir me visiter. C'était une personne proche aidante qui était déclarée comme telle, là, au niveau de la RPA. Donc, c'est pas n'importe qui, là. C'était pas des amis. Je pouvais pas, dans ma RPA, par exemple, aller jouer aux cartes avec un couple d'amis qui habitait la RPA, etc. Donc, c'était interdit de se promener d'un appartement à l'autre.
Ça a duré quand même plusieurs mois. Ça devait être difficile.
Ben oui, c'était injustifié. On était si pire qu'une prison. Et puis, lorsqu'on pouvait, pour prendre de l'air, prendre une marche là, sur les terrains de la RPA, ça prenait des gens qui assuraient la surveillance là, pour pas qu'on se sauve.
Ouais.
C'était vraiment ridicule. Là, comme...
Bon, je vais revenir au fameux comité de milieu de vie, les CMV, qui ont donc été formés à la suite de cet événement-là et aussi des audiences parlementaires sur la maltraitance des aînés. Les comités de milieu de vie... À quoi ça sert, ça?
OK. Au départ, pour la CROC et pour Mme Blais, la ministre Blais, un comité de milieu de vie est un outil de collaboration mutuelle entre les résidents, leurs proches aidants et les gestionnaires d'une RPA afin de créer de la bien-traitance dans ce milieu de vie.
D'accord.
Le comité de milieu de vie est consultatif. Puis le décret 1574-22 lui assigne 4 fonctions indispensables afin de créer de la bien-traitance, dont celle d'informer les résidents et leurs proches aidants de leurs droits et de défendre les droits collectifs des résidents.
D'accord. Bon, le gouvernement publie un nouveau projet de règlement concernant l'exploitation des RPA. Ça, c'est plus récent. Pourquoi ce texte vous a-t-il fait sursauter?
Bon, d'abord, ce projet a été rejeté partout, par tous. Là. Tant par les représentants des gestionnaires et des propriétaires de RPA que par les usagers ou les différents organismes là, qui défendent les aînés. Ça cadre, selon les dires de la ministre Bélanger dans son mémoire présenté au Conseil des ministres en mars 2023, l'étude d'impact, là, puis de même que l'étude d'impact, là, c'est le projet, c'est pour assurer une exploitation rentable ou favorable. Il n'y a rien dans ce projet pour les aînés. On a oublié qu'il y avait des aînés dans une RPA qui ont des besoins et qu'il faut encadrer et même développer des outils de bien-traitance. Donc ça a été complètement oublié dans le projet.
D'accord. Bon, alors donc, ce texte-là vous fait sursauter, mais vous affirmez aussi que on enlève le droit de parole aux aînés autonomes et que ça fragilise, voire abolit certains comités Alors, comment ce projet de loi peut-il en arriver là?
Bon, d'abord, dans le règlement actuel sur la certification, les RPA sont catégories, il y a quatre catégories de RPA. Avec le projet, on tombe à trois. Il y a les RPA autonomes, les RPA semi-autonomes, puis il y a les RPA non autonomes. Pour les RPA d'aînés autonomes, ben, c'est quasiment rendu uniquement à un immeuble où on offre de l'hébergement, point final. Donc, eux n'ont pas à avoir de comité de milieu de vie. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de loisirs. Donc, c'est aberrant, là, ce projet de règlement, et c'est pour ça qu'il a été rejeté par tous. Là.
D'accord. OK. Donc, là, ce projet-là arrive et même les propriétaires de résidences reconnaissent, eux, l'utilité des comités de milieu de vie. J'imagine que ça doit les aider aussi à mieux gérer leur bâtiment et tout ça. Mais quelque part, on a l'impression que le gouvernement chercherait peut-être à rentabiliser ou privilégier la rentabilité au détriment du droit de parole et de la bien-traitance.
Absolument. Donc, ça vient possiblement du manque de consultation auprès des représentants, des résidents et des proches aidants. En plusieurs occasions, là, le gouvernement et ses acolytes là, transforment des règlements sans vraiment consulter les usagers.
OK.
Donc, il y a un manque d'information.
Alors, vous vous demandez donc l'abrogation pure et simple, puis qu'est-ce que vous proposez là, pour repartir du bon pied avec Santé Québec et la ministre?
Bien, comme l'ensemble des organismes impliqués dans le dossier, là, autant les représentants d'usagers que de propriétaires, on demande de mettre en place une table de concertation qui va permettre d'orienter Santé Québec vers un projet de règlement qui va répondre aux attentes de tous.
Oui. Les élections s'en viennent, hein? C'est au mois de mois d'octobre. J'imagine que ça va être un sujet que vous allez essayer de mettre de l'avant. Avez-vous l'impression que la voix des aînés est écoutée au Québec?
Bien, je crois qu'il y a une place pour une meilleure collaboration,
oui,
et surtout pour une véritable écoute. Une approche moins administrative, une approche plus humaine. C'est ça qu'on souhaite.
Bon, en tout cas, clairement, on va souhaiter que vous soyez entendu, M. Charbonneau. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir pris le temps de nous parler, parce que je sais que vous avez une réunion très importante dans quelques minutes, fait que je vais vous laisser y aller. Je rappelle, Raoul Charbonneau, vous êtes président de l'Association des comités de résidents officiels du Québec. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission.
Mais merci beaucoup de l'invitation et...
À une prochaine, certainement.
À une prochaine.
Merci.
Au revoir.
Elle parle une langue aux accents qui me sont familiers, d'un pays qu'une nuit, dans un rêve, j'aurais visité. Je la prie de pardonner à l'avance mes maladresses. Elle sourit poliment, mais je crois qu'elle ne m'a pas compris. La jeunesse est un autre pays. Il habite une ville secrète, un monde parallèle, une réalité qui possède sa logique à elle. Connaît les mots de passe et les formules de politesse qui ouvrent les salons décadents de l'aristocratie. La jeunesse est un autre pays. Ils sont beaux les enfants du nouveau continent de plastique. Ils se tiennent debout, dansent avec les mouvements tectoniques. Rament à contre-courant avant que l'horizon disparaisse. Oui, je sais que la vague s'en vient, mais moi je reste ici. La jeunesse est un autre pays. Ils sont toute une armée qui cherche à traverser la frontière. Nous sommes presque autant à souhaiter revenir en arrière. On peut changer les meubles de place, on peut changer d'adresse, mais on ne revient pas sur ses traces au chemin de la vie. La jeunesse est un autre pays. La jeunesse est un autre pays. Elle regarde les beaux paysages dans les magazines, se projette en arrière dans des voyages qu'elle imagine. Elle revoit ce coin de paradis, cette vie de paresse, mais ne reconnaît pas les visages dans la photographie. La jeunesse est un autre pays. Il porte un nom de plume, un costume surdimensionné, et consomme la nuit des alcools de fruits mal aimés. Il embrasse la mort, aime de tout son corps et se blesse. On a tort de penser que je suis si différent de lui. La jeunesse est un autre pays.
Philippe Bébé qui nous chantait « La jeunesse est un autre pays ».
Un petit retour à la météo, justement, avant de passer à la pause. Je vous rappelle qu'il y a une veille jaune de tempête, pas de tempête, mais de chute de neige, d'orage, chute de neige, de chute de pluie et d'orage violent dans la région de Montréal, notamment l'île de Montréal, jusque cette nuit. Alors, des vents qui pourraient être très forts, des orages, de la grêle et tout ça. Donc, mettez les meubles de jardin à l'abri. J'imagine aussi le jardin, le recouvrez-le. Je ne sais pas ce qu'on fait quand il fait tempête comme ça. De la pluie partout, pas mal au pays aujourd'hui. Des orages pas mal partout, des humidex pas mal partout aussi. Et après la pause, ben, on va aller dans les unes et les paractualités. À tout de suite.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Encore un jour à se lever, en même temps que le soleil, la face encore un peu poquée, mon 4 heures de sommeil. Je tire une coupe de pof de clope, job done pour les vitamines, puis un bon café à l'eau de mop, histoire de se donner meilleure mine. Yeah. Le Florida Turnpike, demain soir j'suis à Montmagny. Non, Truckers, pas vraiment une Klondike, mais tu vois du pays, yeah. Surtout ça te fait réaliser que derrière les beaux paysages y'a tellement d'inégalités et de souffrances sur les visages. La question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison, puis que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Moi je traîne dans ma remorque, tous les excès de mon époque, la surabondance surgelée, shootée, suremballée, yeah. Pendant que les vœux pieux passent dans le beurre, que notre insouciance est repue, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question que je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que des ruines et la faim? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et
que je parque mon vieux camion. Je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Sur l'Interstate 95, partent en fumée tous les rêves. Un char en feu dans une bretelle, un accident mortel, yeah. Et au milieu de ce bouchon, pas de respect pour la mort. Chacun son tour joue du klaxon, tellement pressé d'aller nulle part. La question que je me pose tout le temps, mais où s'en vont tous ces gens? Il y a tellement de chars partout, le monde est rendu fou. C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Un autre truck stop d'autoroute, pogné pour manger de la chenoute. C'est vrai que dans la soupe du jour, y'a plus tellement d'amour, yeah. On a tué la chaleur humaine avec le service à la chaîne. À la télé, un autre malade vient déclencher une fusillade. La question que je me pose tout le temps, mais comment font ces pauvres gens pour traverser tout le cours d'une vie sans amour? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Que moi aussi, quand je roule tout seul dans la nuit, je me demande des fois ce que je fous ici, pris dans l'arrière-pays, yeah. Je pense à tout ce que j'ai manqué avec Mimi pis les deux filles, et j'ai ce sentiment fucké d'être étranger dans ma famille. La question que je me pose tout le temps, pourquoi travailler autant, éloigné de ceux que j'aime, tout ça pour jouer la game. C'est si triste que des fois, quand je suis loin de la maison, assis dans mon vieux camion, j'ai toute l'Amérique qui pleure, qui part au fond du cœur.
L'Amérique pleure par les cow-boys fringants.
Alors, dans la presse ce matin, en une, obtenir de l'aide pour des problèmes de dépendance au Québec s'apparente à un véritable labyrinthe selon l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance. Dans une démarche d'enquête, la presse a tenté d'obtenir une place d'hébergement d'urgence pour une personne fictive, sans ressources financières et sans y parvenir après 5 heures et demie d'appel. Sur le terrain, les délais d'attente s'accumulent. Ils atteignent 3 semaines pour une simple évaluation au CIUS du centre-sud de l'île de Montréal, 38 jours au CIUS de la capitale nationale et jusqu'à 12 semaines dans certains centres communautaires comme la maison Eureka de Shawinigan. Selon la direction de cet établissement, ces délais augmentent le risque de rechute chez les usagers. Santé Québec indique de son côté qu'il n'existe pas de système provincial centralisé pour connaître en temps réel les disponibilités des places. En parallèle, les organismes communautaires font face à des contraintes financières. La fin d'un programme de financement de 26 $ par jour pour l'hébergement des personnes judiciarisées prive le secteur d'un soutien financier. Pour répondre à l'urgence, la maison Eureka a inauguré en octobre 2025 un service de pré-thérapie à Saint-Guillaume permettant une admission en moins de 24 heures en attendant une place en thérapie. Et puis dans un article complémentaire, toujours dans la presse, des usagers du réseau de traitement des dépendances dénoncent la lourdeur des délais d'accès aux soins. C'est le cas d'Emmanuel, 42 ans, qui a dû débourser 7 000 $ dans le privé avec l'aide de sa famille pour éviter les longs délais du réseau public. Les démarches dans les CLSC exigent une présence physique pour l'évaluation initiale que plusieurs usagers jugent inadaptée. Pour d'autres personnes rencontrées à la maison Eureka de Shawinigan, l'accès aux soins a été facilité par l'intervention de travailleurs de rue. C'est le cas d'Esteban, 19 ans, et de Steve, 56 ans, tous deux orientés vers ce centre communautaire après avoir été incarcérés pour des faits liés à leur dépendance. Le manque de ressources adaptées aux mineurs dans la région ainsi que les délais d'attente pouvant atteindre 2 mois font partie des obstacles documentés sur le terrain. Dans Le Devoir ce matin, en Montérégie, le parcours d'une mère pour faire admettre sa fille de 10 ans dans une classe spécialisée illustre les difficultés d'accès aux services pour les élèves ayant des besoins particuliers. Sa fille vit avec un trouble développemental du langage nommé TDL et accumule des retards scolaires importants depuis la 2e année. Elle n'a pas pu obtenir de place dans une classe à effectif réduit. Le Centre de services scolaires local indique que l'élève ne remplit pas l'ensemble des critères administratifs requis malgré la présentation de 6 rapports professionnels financés par la famille. Les démarches entreprises auprès du protecteur national de l'élève, de la Commission des droits de la personne et du ministère de l'Éducation n'ont pas permis de modifier la situation. Selon le président de la Fédération des syndicats de l'enseignement, les critères d'admission restreints découlent des contraintes budgétaires qui limitent le nombre de classes spécialisées disponibles dans le réseau public. Le trouble développemental du langage touche environ 85 000 jeunes au Québec, soit un élève sur 14. L'organisme Regroupement TDL Québec et des intervenants et intervenantes du milieu scolaire rappellent que ce trouble affecte la compréhension ou l'expression et s'accompagne fréquemment d'un trouble du déficit de l'attention. Sans soutien adapté ou classe spécialisée, la situation crée une surcharge de travail pour les enseignants et enseignantes en classe ordinaire et accentue le risque de décrochage chez les élèves concernés. Deux autres unes en terminant. Le Devoir ce matin, en Colombie-Britannique, l'incendie de forêt de Bald Range qui ravage la région du lac Okanagan a fait 1 décès. La Gendarmerie royale du Canada signale le décès d'une femme de 80 ans de Meadow Valley survenue lors de son évacuation. La propagation rapide des flammes a forcé l'évacuation d'environ 20 000 personnes et poussé le gouvernement provincial à décréter l'état d'urgence. La communauté de Folder, qui compte 215 habitants, subit des dégâts matériels majeurs avec de nombreux bâtiments détruits. Près de 10 000 foyers font l'objet d'un ordre d'évacuation dans les municipalités de Summerlin et de Peachland, ainsi que les territoires autochtones environnants. La mauvaise visibilité causée par la fumée entrave présentement les opérations de lutte aérienne dans la région. Et dans la presse plus, les océans de la planète ont atteint des températures records au mois de juillet. La température moyenne de la surface s'élevait à 20,96 degrés Celsius dans les zones extrapolaires. Selon les données du service Copernicus sur le changement climatique, ce niveau dépasse le précédent sommet enregistré en 2023. Le développement du phénomène El Niño dans le Pacifique tropical explique en partie cette hausse des températures qui s'accompagne de vagues de chaleur marine en Atlantique et en Méditerranée. Les spécialistes rappellent que les océans couvrent plus de 70 % de la surface terrestre et absorbent 93 % de l'énergie de la planète. La hausse des émissions de gaz à effet de serre perturbe ce système de régulation, ce qui favorise également la formation et l'intensification des ouragans. Sur la terre ferme, juillet figure au deuxième rang des mois les plus chauds jamais observés à l'échelle mondiale, avec une température moyenne de l'air en surface de 16,9 degrés Celsius.
Comment se lance, mais le passé me rattrape toujours. Quoi que j'en fasse,
l'intégrité, ce luxe des hommes qui ont déjà leur nom. La vraie vie me prendra bien des choses, sauf mon bonheur et ma chanson.
Collectif Kanda Gang nous chantait sans raccourci.
Alors, au Paractualité, aujourd'hui, voici un résumé d'un article extrait de Radio-Canada.ca du 8 août sur le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières. Le pilote Dave Vaillancourt effectue un retour sur les pistes après 28 ans d'absence pour honorer la mémoire de sa fille, Sacha Vaillancourt, décédée dans un accident de voiture. Au volant d'une Nissan Sentra, aux couleurs de la fondation créée en hommage à la jeune trifluvienne, le père en deuil participe à la compétition afin d'amasser des fonds pour soutenir les enfants aux prises avec la dyslexie. Ce trouble de l'apprentissage touche environ 5 % des enfants d'âge scolaire et même des adultes comme moi, je vais le dire. Alors, dans le cas de Sacha, la dyslexie se manifestait principalement par des difficultés de compréhension de texte alors qu'elle obtenait d'excellentes notes en mathématiques. Les sommes récoltées par l'initiative servent à financer des services offerts directement aux enfants à la clinique multidisciplinaire de l'Université du Québec à Trois-Rivières. L'objectif initial de la collecte de fonds était fixé à 6 000 $. Or, bien, un premier chèque de 8 500 $ a été versé officiellement à l'UQTR vendredi soir. Sur le plan sportif, maintenant, après avoir rencontré des problèmes techniques lors des premiers essais du vendredi, Dave Vaillancourt s'est lancé à partir de la 19e rang pour la course de samedi. Résumé maintenant dans Radio-Canada.ca encore en 18 août, un rapport d'évaluation indépendant rédigé par l'expert Michael Prince critique la lenteur des progrès du gouvernement de la Nouvelle-Écosse concernant la désinstitutionnalisation des personnes en situation de handicap. La décision rendue en matière de droits de la personne ordonne à la province de sortir ses citoyens des institutions pour les reloger dans la collectivité d'ici 2028. Le gouvernement affirme avoir rempli 16 des 34 exigences de la réforme. L'évaluateur conclut de son côté que seulement 7 objectifs ont été entièrement satisfaits, déplorant un manque de transparence et des données insuffisantes pour mener l'avancement réel du dossier. Les militants et militantes pour les droits des personnes en situation de handicap qualifient ce manque de célérité d'inquiétant et demandent une meilleure reddition des comptes. La ministre des Opportunités et du Développement social, Susan Corkum-Greek, a réagi en soulignant que le rapport représente un point de vue parmi d'autres et réaffirme sa confiance quant au respect de l'échéance de 2028. Au cours de la dernière année, 102 personnes ont quitté un établissement pour s'installer dans un logement communautaire, ce qui porte le total à près de 260 départs au cours des dernières années. Voici le résumé d'un texte extrait du Soleil du 7 août. Le club de golf Highlands accueille cette année le championnat canadien toute capacité, une compétition réunissant les meilleurs golfeurs vivant avec un handicap à travers le pays. Parmi les participants figure l'Ottavien Mike Glover, amputé de la jambe droite il y a 5 ans à la suite d'un cancer. Ancien choix de repêchage des Oilers d'Edmonton au hockey en 1988, cet homme âgé de 58 ans s'est relancé dans le golf il y a 3 ans et est parvenu à faire passer son index de handicap de 25 à 11. Ça, je vous dis en passant, les termes de golf, je n'y comprends rien, mais ceux qui s'y connaissent, j'imagine, vont savoir de quoi je parle. Puis j'ai essayé de comprendre ça en lisant sur les internets, puis j'ai toujours pas compris. Bon, voilà, je ne joue pas au golf, c'est peut-être pour ça. Il dispute ce tournoi aux côtés de son ami Steve Slay, également membre du club Mississippi à Almonte. Atteint de la maladie de Stargard, ce dernier est légalement non-voyant et ne dispose plus que de 5 % de vision à l'œil droit et 8 % à l'œil gauche. Privé de compétition depuis environ 15 ans en raison de contraintes financières et logistiques liées à la nécessité d'avoir un accompagnateur, il participe à l'événement grâce à son frère et sa sœur qui se relaient comme caddies sur le parcours d'Ottawa. Puis enfin, un autre petit texte, cette fois-ci tiré du Devoir du 7 août. L'expérience de femmes autistes ayant reçu un diagnostic tardif suscite un intérêt croissant dans le domaine de la santé mentale et de l'enseignement supérieur. Souvent qualifiées d'autistes invisibles ou de génération perdue, de nombreuses femmes traversent un parcours d'errance diagnostique marqué par des erreurs d'évaluation. Historiquement basées sur des profils masculins, les critères de diagnostic laissaient de côté des manifestations plus fréquentes chez les femmes, telles que la capacité d'imitation sociale ou des intérêts spécifiques ciblés sur la psychologie, la mode ou la linguistique. Alors que le ratio historique était de 4 garçons pour une fille, les estimations actuelles se situent plutôt autour de 3 pour une. Afin de répondre aux besoins de cette clientèle, Gabriel Gingras, professeur à l'École d'art-thérapie de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et doctorante à l'Université du Québec à Montréal, a développé un programme spécifique. Élaboré conjointement avec une art-thérapeute et des consultantes autistes, ce projet d'autonomisation sociale s'est étalé sur 10 rencontres de groupe et a culminé avec une exposition publique. Les résultats tirés de témoignages des participantes mettent en lumière 3 constats principaux. D'abord, le regroupement entre pairs a brisé le sentiment d'isolement en offrant un lieu de soutien affranchi de l'obligation de suradaptation aux codes sociaux. Ensuite, l'utilisation de l'art comme moyen d'expression a permis d'aborder des réalités sensorielles et émotionnelles complexes, favorisant une amélioration de l'estime de soi et une perception renouvelée de l'autisme. Enfin, la présentation des œuvres lors de l'exposition publique a offert un espace de visibilité ayant conduit plusieurs participantes à faire leur dévoilement autistique tout en contribuant à déconstruire les stéréotypes. La démarche a incité les participantes à poursuivre leur engagement en formant le collectif artistique La Tribu d'Émergente. On s'en va en musique.
Sur la perle rare, se contenter de ce qui reste au bord.
la pièce Rebound par la formation Blam.
Bien, je vous rappelle hein, qu'il y a une veille jaune d'orage violent dans la région de Montréal, des vents très forts et aussi possibilité de grêle, de panne d'électricité aussi, étant donné que les vents seront très forts et tout ça. Alors, je préfère vous les en avertir ce soir, en fait, cet après-midi et ce soir dans la région de Montréal. Sinon, bien, partout au pays, hein, c'est toujours chaud. Généralement, donc, nuageux, par contre, des averses débutant en après-midi presque partout. Risque d'orage presque partout en après-midi. Maximum 26, mais l'humidex, lui, est à 31. Avertissement jaune de chaleur au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, humidex à 37. Bon, il y en a dans l'Ontario où c'est un petit peu... Il n'y a pas de précipitation, mais ça reste chaud. De la pluie à Terre-Neuve. Dans les provinces de l'Ouest, c'est ensoleillé. Mais les humidex restent quand même assez élevés, hein, autour de 28. Alors, ça, c'est au Manitoba. Saskatchewan, Alberta, intérieur de Colombie-Britannique, même chose qu'ici, hein, des risques d'orage en fin de journée et maximum 20 degrés. Alors, ça va être beaucoup moins chaud au niveau de l'humidex. Et le seul endroit où c'est plaisant, c'est toujours la côte ouest, Vancouver à 23. On va parler, après la pause, de Fierté Montréal, qui a terminé les célébrations de son 20e anniversaire avec deux invités, Christophe Gérard et Aurélien Potel. Donc, on vous parle de tout ça après la pause.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Dans le silence depuis l'enfance, je me cache, je m'efface. Mise en lumière, comment me faire? Cette place, moi qui suis née pour que l'on me voie. Entre deux filles, dis-moi qui je suis. J'ai besoin de trouver ma place. Je connais les conflits, je fais trop de bruit. Mais j'ai pas peur de mon audace. Regarde-moi bien en face. J'en ai assez, je veux briller à travers la nuit. J'ai ces marques loin. J'ai tant menti, oh oui, bien trop de fois. Mais j'en ai assez. Je veux briller à travers la nuit. Car les guerrières sont là et chantent encore. Telle est ma vie. On est là, pop, pop, pop. C'est notre moment. Rien ne pourra nous arrêter.
Briller par Hunter X.
Oui, j'ai mis cette chanson-là parce qu'il me semble que ça nous remet un peu dans l'ambiance du Festival Fierté Montréal qui s'est terminé hier avec le défilé traditionnel. Celui-ci a débuté au centre-ville, à l'angle de la rue Peel et du boulevard René-Lévesque, à 13h, pour se diriger au cœur du village à Montréal, le village, donc quartier historiquement, pour des communautés queer. Plus de 100 000 personnes se sont massées le long du parcours. Là, c'est les estimations de la police. Et il y avait un parcours de 2,9 km et il y avait quelques 12 000 personnes dans le défilé. C'est du monde. Cet événement phare a revêtu une signification particulière cette année. À la suite de l'attentat terroriste lors de la fierté de Berlin, on se rappelle, le 25 juillet, camion bélier, une voiture bélier qui a fait un mort et 29 blessés. Situation particulière aussi, alors que la haine envers les personnes de la diversité sexuelle et de genre alimentée par l'extrême droite s'est décomplexée. On l'a vu, il y a des sondages qui montrent une hausse des attitudes assez intolérantes, merci, vis-à-vis nos communautés. Et puis, une espèce de haine vers nos communautés. Et faut dire aussi que les personnes des communautés de la diversité sexuelle et de genre accusent des reculs importants de leurs droits partout au pays. Mais tout ça aussi survient à la veille d'élections provinciales au Québec. Fait que tout ça met un espèce de contexte intéressant pour ce festival de Fierté Montréal qui a connu aussi des années difficiles récemment, surtout l'an dernier. Alors, cette 20e édition était la première sur une nouvelle administration avec des restrictions budgétaires. On le sait, il y a eu des compressions aussi dans le budget de Fierté Montréal, dans le financement public. Alors, ce matin, nous n'allons pas recevoir les dirigeants et dirigeantes de Fierté Montréal. Et elles sont en congé bien mérité. On aura l'occasion de les réinviter, surtout dans mon autre émission. Mais je voulais quand même qu'on en parle ce matin. Alors, je reçois deux blogueurs français qui ont passé la dernière semaine à Montréal pour justement participer aux festivités des fiertés. D'abord, on le connaît à notre antenne, Christophe Gérard, car il est chroniqueur à mon émission L'heure où l'arc-en-ciel se lève. Il a lancé un blog Queer de rien. Et puis, la version balado du blog sera disponible cet automne. Salut, Christophe.
Bonjour Denis Martin.
Ah, ça fait le fun de nous avoir face à face au lieu de par Zoom.
Oui, ça change tout.
Ça change tout. Et Aurélien Potel est son collaborateur à cette balado. Aurélien, allô?
Allô, Denis Martin. Bonjour.
Alors, merci tous les deux d'être là. Ben, je pense que je vais commencer. On était tous les trois au défilé hier. Quelle a été votre impression? Ben, je vais commencer par toi, Aurélien.
OK, ben alors ce qui m'a frappé pendant le défilé, c'est d'abord l'ambiance.
Ouais.
Énormément de monde, et tu l'as dit à l'instant d'introduction, de la fête, de la visibilité, mais aussi sans que je ressente de tension particulière. J'ai cru comprendre, on en a discuté ensemble, effectivement, il y avait eu un renforcement de la présence policière.
Oui.
Et il y a quelque chose qui m'a interpellé en tant que Français, je me permets de le dire.
Oui.
La présence de la police, alors pour nous, elle est un peu habituel depuis quelques années, on le sait par les événements qui sont passés.
Vous avez beaucoup d'attentats terroristes, voilà, chez vous. Oui.
Donc nous, on est habitué à voir les sentinelles, les militaires qui circulent dans les gares. Moi qui travaille justement dans les gares, j'ai l'habitude. Donc j'ai pas été particulièrement choqué, ça m'a pas paru, et ils étaient présents mais pas intrusifs, je peux le dire.
Oui, parce que je l'avais signalé, il y avait un policier avec une mitraillette, une carabine ou un fusil entre les mains. C'est rare qu'on voit ça. Nous, on les a vus, moi, je me rappelle, je suis un vieux de la vieille, les années 70, la crise d'octobre, j'étais un gamin, mais il y avait des policiers, des gens de l'armée armés qui étaient autour d'infrastructures. Et de voir ça au Festival de la Fierté, moi, ça m'a interpellé. Mais toi, de ton côté, Christophe?
Ben, moi, c'était ma deuxième défilé, puisque l'année dernière. Concrètement, j'ai trouvé ça génial. Il y avait une super ambiance. On a pu discuter notamment avec Barbada, qui disait que c'était très important, qu'il y avait de quoi être fier, d'être tous ensemble. Tu parlais de la présence policière, et tu l'as noté. C'est vrai que l'année dernière, on n'avait pas vu ça. Il y avait la police à cheval qui était présente aussi. Alors, je ne sais pas pour quelle raison.
Bah, c'était plus pour le défilé, je crois.
D'accord. Ouais. Mais en tout cas, il y avait une bonne ambiance. Le seul bémol que je mettrais, moi, personnellement, par rapport à l'organisation, c'est que cette année, on était sur le 20e anniversaire de Fierté Montréal. Et je m'attendais peut-être à quelque chose, pas forcément grandiloquent, mais quelque chose de plus. Et finalement, j'ai trouvé, ce qui est déjà bien, la même ambiance que j'avais découvert l'année dernière, en fait, en découvrant vraiment le défilé de la marche. Sachant que nous, on a une conception, en tout cas la marche des fiertés telle qu'elle est organisée à Paris et un peu partout en France, c'est un peu différent. C'est-à-dire que les gens peuvent défiler et suivre vraiment le défilé dans son entièreté.
Ils n'ont pas à s'inscrire comme ici. Là.
Voilà, ouais. C'est ça. Donc, en fait, il suffit qu'on trouve une association avec laquelle on se sent en adéquation et on peut défiler avec les gens qui font partie de cette association. Et ici, c'est complètement différent, ce qui peut être surprenant la première fois que l'on participe, mais finalement, c'est bonne ambiance, il y a une bonne ambiance, c'est bon enfant, c'est très inclusif. Hier, il y avait beaucoup de personnes avec des familles, avec des enfants, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on voit peut-être moins à Paris, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose, un moment à vivre au moins une fois dans sa vie. Rappeler, peut-être, tu disais 100 000 personnes réunies à Paris. Alors, on n'est pas sur la même population, on en a parlé.
Vous avez près 5 fois la population de la région métropolitaine ici.
Voilà, et en règle générale, une marche parisienne, ça regroupe à peu près 500 000 personnes.
1 million, oui. Ouais. Ouais, ben, moi, j'y étais à quelques reprises avec toi, justement, puis avec Aurélien, puis... C'est vrai qu'on peut se joindre à la marche un peu n'importe où. Mais à Montréal, on peut le faire aussi. C'est lorsque la marche se ferme, oui, les gens peuvent suivre à l'arrière. Je retiens ton commentaire parce que je vais me permettre aussi d'en faire quelques-uns. Moi aussi, j'étais surpris que je n'ai pas senti que c'était le 20e anniversaire dans le défilé. C'est pas une... Moi, je dis toujours aux gens, quand je fais une critique, c'est jamais une critique dérogatoire. C'est juste que, j'étais surpris qu'on n'en parle pas plus que ça. Mais moi, par contre, ce que j'ai aimé, il y avait beaucoup moins de fertiers, qui est à mon avis souvent, je trouve que ça, c'est de trop. Et souvent, ce sont des entreprises commerciales qui en mettent plein la vue. Hein. C'est un peu espèce de cautionnement parce que, bon, on fait notre effort, on est au défilé des fiertés. Et ça aussi, ce que j'ai aimé, c'est que ça commençait avec les groupes communautaires et ça se terminait avec les entreprises privées. Et... qui, à mon avis, ont fait une présentation beaucoup plus sobre que d'habitude. Et je ne sais pas si c'était voulu. Là.
D'accord. Mais c'est vrai, quand on compare, enfin, en tout cas, moi, quand je compare ce que j'ai vu l'année dernière et cette année, par rapport à cette présence un peu plus commerciale, c'était moins flagrant. Et en effet, j'ai l'impression qu'on laissait plus la place aux associations, aux militants, queer et de LGBTQIA+. Donc, finalement... C'est plutôt assez positif. Et là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui est assez commun avec l'organisation chez nous.
Oui, c'est-à-dire
Le fait que ce soit plus communautaire, moins commercial. Chez nous, en fait, on a une présence peut-être plus politique.
Oui.
Bah, là, il y avait aussi des politiques. Tu en parleras peut-être. Le côté commercial en France est peut-être moins présent.
Ici, c'est évidemment comme c'est un festival qui coûte très cher. Hein, je pense que c'est 5-6 millions de dollars que ça coûte en tout. Évidemment, quand il faut aller chercher de l'argent non seulement au niveau du gouvernement, au niveau du financement public, il faut aller au financement privé. On a vu des délégations politiques. Il n'y en avait pas des tonnes, mais il y en avait. Je ne sais pas si on peut le dire, mais il y a eu un moment de silence quand un certain parti politique est passé. Et même... Moi, ça a été un petit peu chahuté.
Oui, on a entendu les huées de la foule à un certain moment.
Ouais.
Alors, nous, on n'est pas trop au fait des partis politiques ici, mais je pense qu'on a exactement les mêmes partis. En tout cas, on est confrontés aux mêmes situations en France. Et ça peut être intéressant peut-être de le comparer. Si j'ai bien compris, c'est plutôt les partis de droite qui ont été hués ici. Alors... je peux citer le parti ou...
Oh, tu peux.
Il me semble que c'est le Parti québécois qui a été particulièrement chahuté, où il y a eu, c'est vrai, c'était assez impressionnant, puisque juste avant, il y avait pas mal d'applaudissements et de cris, mais de joie. Et quand ils sont arrivés dans le défilé,
j'ai remarqué un silence.
C'était assez surprenant le contraste entre les deux ambiances. Ouais. Et l'ambiance est revenue après leur passage.
Mais moi, je vais ajouter que c'est à peu près tous les partis politiques, quand ils sont arrivés, il y a eu comme un silence. Quelque part, je ne sais pas, peut-être parce que tu sais, on sent qu'il y a une élection qui s'en vient, une élection générale qui s'en vient au Québec, et puis parfois les groupes ou les personnes des diversités se disent « Ah, là, cette année, ils vont participer parce que c'est, y a des élections ». Parce que les politiciens ne seront pas toujours là entre les élections.
Ouais. Et nous, on a exactement la même chose. Ils vont être présents à certains moments où on sait que l'électorat LGBTQIA+ est important. Une fois passé, nos droits, nos réalités deviennent secondaires, en tout cas pas prioritaires.
On va parler maintenant des autres activités parce que vous avez été là toute la semaine. Allons donc avec les journées communautaires qui étaient vendredi et samedi. Oui, vas-y donc, Aurélien.
Merci. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant à Fierté Montréal, c'est que la Fierté ne se résume pas qu'à un défilé finalement. Nous, en France, on est plutôt concentré sur une journée qui d'ailleurs cette année, vu les fortes conditions climatiques, a été reportée sine die, donc à la rentrée normalement. On n'a pas toute cette semaine, ces 10 jours, on n'a pas, et j'aimerais effectivement, j'ai été assez surpris, c'est ma première moi, contrairement à Christophe, et j'étais surpris par le fait qu'il y avait quand même un certain mouvement qui était initié, et je me suis dit, mais il faut qu'on s'inspire aussi, nous, on serait bien de s'inspirer, de faire un peu ça chez nous. Alors après, je ne sais pas si c'est possible, si on a le même engagement. Je ne sais pas, toi qui as vécu aussi, qui est venu nous voir régulièrement et qui a participé au Gay Pride, au Marche de la Fierté.
Plusieurs fois, oui.
Ouais, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a des trucs dont on pourrait s'inspirer fortement.
Ben, moi, j'avoue que je suis allé dans les défilés chez vous. Pendant qu'on fait des comparaisons, je voyais des organismes que je trouvais très intéressants, mais je n'avais pas vraiment l'occasion de jaser avec eux ou avec elles, parce que si nous, on peut le faire ici pendant les journées communautaires, on les découvre. Moi, je les découvrais au défilé, mais à la marche. Mais là, c'était très difficile d'avoir des conversations parce que là, c'est très bruyant, un défilé chez vous, pas mal plus qu'ici d'ailleurs, très bruyant. Alors essayer d'avoir des conversations, c'est très difficile. Et je trouve que ça manque chez vous. J'avoue que, on compare, puis peut-être qu'il y a d'autres raisons puis d'autres choses de faire des choses. D'ailleurs, je me promets d'avoir le co-président d'Inter-LGBT probablement à la rentrée de mon émission pour parler avec lui et avec ici la direction générale faire cette comparaison. Puis il y avait aussi les spectacles, les grands spectacles à grand déploiement. Nous en avons vu deux. Je pense que je vais te lancer, Christophe. Qu'est-ce que tu en as pensé?
Alors, on en a vu deux. On a vu la soirée 100% drag.
Ouais.
Là aussi, c'était un événement auquel j'avais assisté l'année dernière. Et puis le deuxième, c'était un spectacle un peu particulier puisque c'était pour les 20 ans de la Fierté. On va peut-être commencer par le 100% drag. Ouais. C'est un spectacle, mais vraiment à voir parce que c'est génial. Je pense que c'est le plus gros rassemblement de drag queen. Alors, il y a beaucoup de drag queen états-uniennes, mais en tout cas, il y avait pas mal de choses. Et il faut souligner vraiment l'animation incroyable de Rita Baga et de Barbada, qui sont deux entertaineuses, mais vraiment absolues. Barbada, notamment, nous a fait beaucoup rire.
Qui s'est moqué un peu des Français, oui.
Mais avec tellement de... c'était tellement drôle.
Qu'est-ce qu'elle a dit? Pour mes amis français. Oh.
il y a vraiment... on sent qu'elles ont l'habitude de travailler ensemble et c'est vraiment très bien. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous, on vient de France et il faut traverser l'Atlantique pour voir une drag queen française, la drag queen numéro 1 en France, Nikki Doll, qui est peut-être moins accessible quand on est en France. En tout cas, elle fait moins de choses en France. Il faut dire qu'elle vit aussi à New York, je crois.
Ouais.
Mais en tout cas, c'était vraiment une soirée incroyable. Beaucoup de bonne humeur et encore une fois, des drag queens vraiment, vraiment géniales.
Et ça a duré quand même plus de 4 heures. C'était un petit peu long, mais bon, ça, c'est peut-être parce que je suis vieux. Mais je dis, oh, là, je suis fatigué, j'ai hâte de rentrer chez
ça
moi.
Ça faisait longtemps que tu ne nous l'avais pas dit.
Ah, je n'avais pas dit celle-là. Toi, tes impressions, Aurélien, sur ce spectacle?
Moi, pareil, c'était la première fois que je voyais autant de drag queens réunies en un seul endroit. Et pareil, ça, dans la continuité de ce que j'ai vécu depuis une dizaine de jours maintenant, je suis, conquis. Donc moi, j'avoue donc j'ai pas.
Ah, il retourne pas à Paris, lui.
Ah, je vais rester ici. Il va falloir me faire une place, franchement. Et puis je serai un autre Français de plus à vous enquiquiner, chers amis. Mais écoutez, je suis quelqu'un de bienveillant. Je suis quelqu'un de bienveillant. Et en tout cas, comme je l'ai dit plusieurs fois, je me suis senti beaucoup plus intégré ici en une dizaine de jours qu'en 19 ans de résidence à Paris. Donc vraiment, c'est déjà un bon point pour.
Donc t'as 19 ans, c'est ça, oui.
Oui, c'est ça, c'est mon âge.
Rapidement, parce que le temps commence à filer, le spectacle du 20e anniversaire, et puis moi, je le dis en toute bienveillance aussi, je vais dire, je suis un petit peu resté sur ma faim. C'était une très belle mise en scène, très bel arrangement. On les connaît, c'est Pleurer dans la douche avec Geneviève Labelle et Mélodie Rousseau. Geneviève Labelle et Mélodie Rousseau, Noël Rousseau. Contrairement à la veille, il y avait 25 000 personnes la veille qui dansaient. Bon, cette fois-ci, il y a eu quand même un gros orage en début de soirée. Il a fallu évacuer puis retourner. Peut-être que ça a joué. Mais je ne sentais pas l'ambiance.
C'est vrai. Et clairement, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la marche. C'est un spectacle pour célébrer les 20 ans de Fierté Montréal. Et finalement, moi, je m'attendais peut-être à avoir plus d'artistes de la communauté queer présents sur scène, des musiciens, des chanteurs, des comédiens, en tout cas. Et en fait, c'était plus des sets de DJ avec des tableaux qui étaient magnifiques. Hein. Notamment, il faut signaler le tableau, moi, ça m'a vraiment beaucoup plu avec Lady Bunny. Et,
oui.
Où on voyait des corps très différents et je trouvais ça vraiment très, très beau. Mais il y avait cette succession et finalement... Il y a un moment où on
s'est perdu un petit dans l'histoire. Ouais.
Et qui plus est, il y avait aussi des projections d'images d'archives, mais qui n'étaient pas véritablement marquées dans le temps. Donc, on ne savait pas exactement. Nous, on n'a pas les références non plus, mais c'était un peu dommage de ne pas savoir qui y en a. Par contre, il faut signaler quand même, c'est quelqu'un que j'ai découvert dans ton émission Affirmation, la présence de Claudine Metcalf,
oui.
Qui pour moi est une grande personnalité inspirante de nos communautés. Et sa présence a été... en tout cas, ça m'a touché, véritablement.
Les polémiques, ça existe partout. Les fiertés, partout dans le monde, ont vécu des polémiques à toutes sortes de niveaux, mais surtout sur... Allons-y sur la présence. Ici, à Montréal, ça a été vraiment la présence de groupes pro-israéliens. Évidemment, avec le conflit, le génocide à Gaza, ça causait un problème. Cette année, Fierté Montréal a tenté de tout contingenter ou faire un contingent de groupes religieux. Mais il y avait une forte présence de drapeaux de fierté israéliens, peut-être très grandiose. Je me pose la question, comment ça fonctionne chez vous, ce genre de situation-là?
Alors, dans les défilés, il y a des associations qui sont communautaires. Donc, il y a une association pour les personnes de confession juive, catholique, etc. Mais ils ne sont pas regroupés comme on a pu le voir là. Et c'est assez... j'allais dire filtré, en tout cas, leur présence n'est pas prosélytique. Et surtout, par rapport à ce qui s'est passé, la scission qu'il y a pu avoir l'année dernière ici à Montréal, nous, on n'a pas vécu ça de la même manière. Il y a eu des problèmes liés notamment à ce qui se passe à Gaza et à l'affiche de la marche des fiertés l'an dernier à Paris.
Oui.
Mais en tout cas, le souci n'était pas la présence d'associations ou de contingents pro-israélien, ça n'avait rien à voir, c'était plus par rapport à l'affiche et au message que renvoyait l'affiche.
Chez vous, par contre, c'est aussi la présence de groupes queer d'extrême droite qui sont donc associés au Front National, qu'on appelle Rassemblement National. Mm-hmm. Et ça a causé problème l'an dernier, et surtout parce qu'ils étaient très fâchés de cette fameuse affiche où il y avait, il faut peut-être la décrire, là, il y avait comme...
En fait, pour en parler, parce que c'est difficile de la décrire quand on l'a pas devant les yeux, il y a plusieurs choses qui faisaient polémique. D'abord, le message et le slogan qui étaient sur l'affiche, c'était une illustration d'une artiste qui s'appelle Tola Vart, et le slogan, c'était « Contre l'international réactionnaire queer de tous les pays, unissons-nous ». Donc, un message qui a été considéré comme très woke, très marqué à gauche. Et c'est une des choses qui a qui a fait qu'il y a eu un polémique. L'autre chose, bah, c'était le dessin et l'illustration en elle-même, puisqu'il y avait un certain nombre de représentations, notamment une jeune femme qui portait un keffieh, donc ouais. J'allais dire une décoration, en tout cas un élément de vestimentaire très marqué par la Palestine, et on sait ce qui se passe à Gaza. On peut le dire parce que il y a beaucoup de gens qui refusent de dire ça. C'est un génocide ce qui se passe là-bas. Ça ne remet pas en cause les attentats qu'il y a eu le 7 octobre 2023.
Et le droit d'Israël d'exister. Moi, je ne remets pas ça en cause non plus.
Donc, mais ouais. On peut. Vraiment dénoncer ce qui se passe à Gaza tout en étant contre les attentats du 7 octobre. En France, alors, je ne sais pas du tout comment ça se passe ici, on a l'impression qu'on doit choisir son camp.
Oh, c'est la même chose ici.
Donc, oui. C'est vraiment compliqué. Ce qu'il faut dire aussi sur cette affiche, c'est qu'il y a des partis politiques, et notamment les Républicains, et notamment Valérie Pécresse, hein, qui est la présidente de la région Île-de-France, qui... Je pense que ça lui a fait plaisir quelque part, hein, cette polémique, a décidé de ne pas verser des subventions à l'inter-LGBT qui organise la marche des fiertés. Et ce n'est pas un petit montant, hein, c'est 50 000 euros. J'ai calculé, ça représente à peu près 80 000 dollars.
Ouais.
Donc, ce n'est pas une petite somme. Et c'est ce qui permettait notamment d'avoir la scène en fin de défilé pour les prises de parole et bah, tout ce qui est culturel au sein du défilé.
Je pense que il nous reste quelques minutes. On va parler aussi du fait, parce que la raison que je vous invitais aussi, c'est que vous êtes ici en temps... ben, c'est sûr que toi, Christophe, tu es ici parce que tu participes à mon émission régulière, mais aussi vous êtes là pour le blog Queer de rien que tu as commencé. Comment c'est né, cette histoire-là?
Alors... Moi, je suis à la base, je suis blogueur. Ouais. Avant de rejoindre l'émission et l'équipe de L'heure où l'arc-en-ciel se lève, j'avais un blog culture qui s'appelle Moi, j'y crois, alors, sur lequel je continue à travailler. Mais quand j'ai commencé la radio, j'ai mis cette activité un peu de côté. Pour être tout à fait honnête, à la base, Queer de rien, puisque c'est le nom du blog, ça devait être un podcast que vous appelez Balado Diffusion,
oui.
En septembre 2025. Mais il se trouve que j'ai eu des problèmes de santé après mon séjour l'an dernier et j'ai dû me concentrer sur cet élément. Et puis au moment où ça allait mieux, il y a des sur la chronique Transatlant Queer, il y a vraiment des choses et des sujets que j'aborde. La chronique dure 12-13 minutes à peu près, donc c'est un bon moyen de survoler l'actualité, mais quand on veut faire du fond, c'est plus compliqué.
Tout à fait.
Et donc, ben, comme ça allait mieux au niveau physique, je me suis dit, je vais me relancer sur cette activité, peut-être faire quelque chose d'assez différent, aller plus loin dans les sujets que je traite sur la chronique. Et revenir un peu plus tard sur le projet de Balado Diffusion qui va naître en septembre, en tout cas très rapidement. Alors, le projet, dès le départ, on a décidé de le faire à deux avec Aurélien parce que c'est quelqu'un que je connais depuis 15 ans maintenant et avec qui on avait vraiment envie de travailler ensemble. Et on cherchait un projet commun, ce Queer de rien l'est. Et on l'a décalé d'un an, mais Queer de rien va devenir un podcast très, très prochainement. Et on est aussi ici pour ça.
On va t'entendre sur le podcast, Aurélien.
Ben moi, je suis, comme l'a dit Christophe, après 15 années de bons et bonnes relations entre nous, on a décidé enfin de travailler ensemble, puisque c'est un milieu qui m'intéresse beaucoup. Je travaille dans la communication pour un grand groupe
SNCF,
français.
On n'a pas le nommé, oui.
Voilà, donc un peu l'équivalent de Via Canada, Via Rail. Donc voilà, en France. Donc du coup, je fais de la communication et je fais beaucoup de contenu vidéo et de contenu audio. Et donc du coup, je me lance avec Christophe et moi, j'apporte le côté micro-trottoir. Et donc, n'hésitez pas, si vous nous croisez, quel que soit dans Montréal, n'hésitez pas, surtout rue Sainte-Catherine, à nous répondre, parce que c'est des bonnes questions qu'on vous pose.
Puis aussi à Québec, parce que nous y serons en fin de semaine,
mais
tous
oui.
les trois. Et les amis, on est vraiment rendu à la fin de cet entretien.
On jase.
Ah, mais non, mais c'est ça la radio, puis c'est intéressant. Oui, j'avais vu qu'on avait à peu près 10 autres sujets dont on aurait pu parler, mais c'est comme ça, on en prépare plus que moins. T'es toujours ça.
Ben oui, mais en tout cas, je me permets de te couper pour te remercier de cette invitation, cher Denis Martin. On se connaît depuis moins longtemps que toi et Christophe, ouais. Mais merci pour cette invitation et notamment pour les feuillages auxquels j'ai participé. Et on se retrouve l'année prochaine, on y tient, parce que ça va durer et ça va tenir.
Oui, le grand feuillage littéraire que j'ai organisé dans le cadre de Fierté littéraire. Oui, je porte plusieurs chapeaux. On arrive donc à la fin de cette émission. C'est le temps de vous dire toujours encore de faire très attention aujourd'hui. Il y a une veille d'orage violent, donc pour la région de Montréal surtout, cet après-midi, ce soir. Donc, ça pourrait amener de vents très forts, de la grêle, des pannes d'électricité. Donc, soyez avertis. Pour toujours un homme ou une femme averti en vaut deux, ben, c'est le cas de le dire. Je remercie Maurice Bolduc à la régie aujourd'hui, ce matin, qui est là avec moi encore pour deux semaines. Et moi, je m'appelle Denis Martin Chabot. Je serai de retour demain 9h30, toujours dans le cadre d'Au quotidien, ici à Canal M. Bonne journée!